Madame, mademoiselle, monsieur, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Pour cette seconde émission de mars 2010, nous céderons la parole à notre sœur Gisèle Évrard de la Fédération Spirite de la province de Liège, avec qui nous continuerons la lecture du livre de la jeunesse. Nous terminerons par divers communiqués de nos partenaires, et notamment sur les activités programmées pour les mois à venir, conférences, symposiums, séminaires, mais aussi celles dites indépendantes placées sous l'égide d'autres organisations visant le même but que le nôtre. À toutes et à tous, nous vous souhaitons une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre sœur Gisèle vous invite à poursuivre le chapitre 11 traitant de la jeunesse spirituelle et plus particulièrement de la suite de la réincarnation, des points 34 à 37 et de la race adamique, point 38.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 11, Genèse spirituelle, réincarnation. Point 34. Quelques personnes pensent que les différentes existences de l'âme s'accomplissent de monde en monde, et non sur un même globe où chaque esprit ne paraîtrait qu'une seule fois. Cette doctrine serait admissible si tous les habitants de la terre étaient exactement au même niveau intellectuel et moral. Ils ne pourraient alors progresser qu'en allant dans un autre monde, et leur réincarnation sur la terre serait sans utilité. Or Dieu ne fait rien d'inutile. Dès l'instant qu'on y trouve tous les degrés d'intelligence et de moralité, depuis la sauvagerie qui côtoie l'animal jusqu'à la civilisation la plus avancée, elle offre un vaste champ au progrès. On se demanderait pourquoi le sauvage serait obligé d'aller chercher ailleurs le degré au-dessus de lui quand il le trouve à côté lui et ainsi de proche en proche. Pourquoi l'homme avancé n'aurait pu faire ses premières étapes que dans des mondes inférieurs alors que les analogues de tous ces mondes sont autour de lui, qu'il y a différents degrés d'avancement, non seulement de peuple à peuple, mais dans le même peuple et dans la même famille. S'il en était ainsi, Dieu aurait fait quelque chose d'inutile en plaçant côte à côte l'ignorance et le savoir, la barbarie et la civilisation, le bien et le mal, tandis que c'est précisément ce contact qui fait avancer les retardataires. Il n'y a donc pas plus de nécessité à ce que les hommes changent de monde à chaque étape qu'il y en a pour qu'un écolier change de collège à chaque classe. Loin que cela fût un avantage pour le progrès, ce serait une entrave, car l'esprit serait privé de l'exemple que lui offre la vue des degrés supérieurs et de la possibilité de réparer ses torts dans le même milieu et à l'égard de ceux qu'il a offensés, possibilité qui est pour lui le plus puissant moyen d'avancement moral. Après une courte cohabitation, les esprits se dispersant et devenant étrangers les uns aux autres, les liens de famille et d'amitié n'ayant pas eu le temps de se consolider, serait rompu. À l'inconvénient moral se joindrait un inconvénient matériel. La nature des éléments, les lois organiques, les conditions d'existence varient selon les mondes. Sous ce rapport, il n'y en a pas deux qui soient parfaitement identiques. Nos traités de physique, de chimie, d'anatomie, de médecine, de botanique, etc. ne serviraient à rien dans les autres mondes, et cependant, ce que l'on y apprend n'est pas perdu. Non seulement cela développe l'intelligence, mais les idées que l'on y puisse aident à en acquérir de nouvelles. Entre parenthèses, voir chapitre 6, numéro 61 et suivant. Fermez la parenthèse. Si l'esprit ne faisait qu'une seule apparition, souvent de courte durée, dans le même monde, à chaque migration, il se trouverait dans des conditions toutes différentes. Il opérerait chaque fois sur des éléments nouveaux, avec des forces et selon des lois inconnues pour lui, avant d'avoir eu le temps d'élaborer les éléments connus, de les étudier, de s'y exercer. Ce serait chaque fois un nouvel apprentissage à faire, et ces changements incessants seraient un obstacle au progrès. L'esprit doit donc rester sur le même monde jusqu'à ce qu'il y ait acquis la somme de connaissances et le degré de perfection que comporte ce monde. Entre parenthèses, voir numéro 31. Fermez la parenthèse. Que les esprits quittent pour un monde plus avancé celui sur lequel ils ne peuvent plus rien acquérir, cela doit être et cela est. Tel est le principe. S'il en est qui le quitte auparavant, c'est sans doute par des causes individuelles que Dieu pèse dans sa sagesse. Tout a un but de la création, sans quoi Dieu ne serait ni prudent ni sage. Or, si la terre ne doit être qu'une seule étape pour le progrès de chaque individu, quelle utilité y aurait-il pour les enfants qui meurent en bas âge d'y venir passer quelques années, quelques mois, quelques heures, pendant lesquelles ils n'y peuvent rien acquérir? Il en est de même pour les idiots et les crétins. Une théorie n'est bonne qu'à la condition de résoudre toutes les questions qui s'y rattachent. La question des morts prématurées a été une pierre d'achoppement pour toutes les doctrines, excepté pour la doctrine spirite, qui seule l'a résolue d'une manière rationnelle et complète. Pour ceux qui fournissent sur la terre une carrière normale, il y a pour leur progrès un avantage réel à se retrouver dans le même milieu pour y continuer ce qu'ils ont laissé inachevé, souvent dans la même famille ou en contact avec les mêmes personnes, pour réparer le mal qu'ils ont pu faire ou pour y subir la peine du talion. Émigration et immigration des esprits. Point 35. Dans l'intervalle de leurs existences corporelles, les esprits sont à l'état d'ératicité et composent la population spirituelle ambiante du Golong. Par les morts et les naissances, ces deux populations se déversent incessamment l'une dans l'autre. Il y a donc journellement des émigrations du monde corporel dans le monde spirituel et des immigrations du monde spirituel dans le monde corporel. C'est l'état normal. Point 36. À certaines époques, réglées par la sagesse divine, ces émigrations et ces immigrations s'opèrent en masse plus ou moins considérables, par suite des grandes révolutions qui en font partir en même temps des quantités innombrables, lesquelles sont bientôt remplacées par des quantités équivalentes d'incarnations. Il faut donc considérer les fléaux destructeurs et les cataclysmes comme des occasions d'arrivée et de départ collectifs, des moyens providentiels de renouveler la population corporelle du globe, de la retremper par l'introduction de nouveaux éléments spirituels plus épurés. Si dans ces catastrophes, il y a destruction d'un grand nombre de corps, il n'y a que des vêtements déchirés, mais aucun esprit ne périt. Ils ne font que changer de milieu. Au lieu de partir isolément, ils partent en nombre, voilà toute la différence. Car partir par une cause ou par une autre, ils n'en doivent pas moins fatalement partir tôt ou tard. Les rénovations rapides et presque instantanées qui s'opèrent dans l'élément spirituel de la population, par suite des fléaux destructeurs, hâtent le progrès social. Sans les émigrations et les immigrations qui viennent de temps à autre lui donner une violente impulsion, il marcherait avec une extrême lenteur. Il est remarquable que toutes les grandes calamités qui déciment les populations sont toujours suivies d'une ère de progrès dans l'ordre physique, intellectuel ou moral, et par suite dans l'état social des nations chez lesquelles elles s'accomplissent. C'est qu'elles ont pour but d'opérer un remaniement dans la population spirituelle, qui est la population normale et active du globe. Point 37. Cette transfusion qui s'opère entre la population incarnée et la population désincarnée d'un même globe s'opère également entre les mondes, soit individuellement dans les conditions normales, soit par masse dans des circonstances spéciales. Il y a donc des émigrations et des immigrations collectives d'un monde à l'autre. Il en résulte l'introduction, dans la population d'un globe, d'éléments entièrement nouveaux, de nouvelles races d'esprits venant se mêler aux races existantes, constituent de nouvelles races d'hommes. Or, comme les esprits ne perdent jamais ce qu'ils ont acquis, ils apportent avec eux l'intelligence et l'intuition des connaissances qu'ils possèdent. Ils impriment, par conséquent, leur caractère à la race corporelle qu'ils viennent animer. Ils n'ont pas besoin pour cela que de nouveaux corps soient créés spécialement à leur usage. Puisque l'espèce corporelle existe, ils en trouvent de tout près à les recevoir. Ce sont donc simplement de nouveaux habitants. En arrivant sur la terre, il faut d'abord partir de sa population spirituelle, puis s'incarne comme les autres. Race adamique, point 38. Selon l'enseignement des esprits, c'est une de ces grandes immigrations ou, si l'on veut, une de ces colonies d'esprits venues d'une autre sphère qui a donné naissance à la race symbolisée dans la personne d'Adam et pour cette raison nommée race adamique. Quand elle est arrivée, la Terre était peuplée de temps immémorial, comme l'Amérique quand y sont venus les Européens. La race adamique, plus avancée que celle qui l'avait précédée sur la Terre, est en effet la plus intelligente. C'est elle qui pousse toutes les autres au progrès. La Genèse nous la montre, dès ses débuts, industrieuse, apte aux arts et aux sciences, sans avoir passé par l'enfance intellectuelle, ce qui n'est pas le propre des races primitives, mais ce qui concorde avec l'opinion qu'elle se composait d'esprits ayant déjà progressé. Tout prouve qu'elle n'est pas ancienne sur la Terre et rien ne s'oppose à ce qu'elle n'y soit que depuis quelques milliers d'années, ce qui ne serait en contradiction ni avec les faits géologiques, ni avec les observations anthropologiques et tendrait au contraire à les confirmer.
Poursuivons notre lecture du jour par le 11e chapitre de la Genèse, traitant de la Genèse spirituelle et plus particulièrement de la suite de la race adamique, des points 39 à 42, et de la doctrine des anges déchus et du paradis perdu, des points 43 à 44.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 11 Genèse spirituelle, race adamique, suite, point 39. La doctrine qui fait procéder tout le genre humain d'une seule individualité depuis 6000 ans n'est pas admissible dans l'état actuel des connaissances. Les principales considérations qui la contredisent, tirées de l'ordre physique et de l'ordre moral, se résument dans les points suivants. Au point de vue physiologique, certaines races présentent des types particuliers caractéristiques qui ne permettent pas de leur assigner une origine commune. Il y a des différences qui ne sont évidemment pas l'effet du climat, puisque les blancs qui se reproduisent dans le pays des nègres ne deviennent pas noirs et réciproquement. L'ardeur du soleil gris et brunit l'épiderme, mais n'a jamais transformé un blanc en nègre, aplati le nez, changé la forme des traits de la physionomie, ni rendu crépus et laineux des cheveux longs et soyeux. On sait aujourd'hui que la couleur du nègre provient d'un tissu particulier sous-cutané qui tient à l'espèce. Il faut donc considérer les races nègres, mongoliques, caucasiques comme ayant leur origine propre et ayant pris naissance simultanément ou successivement sur différentes parties du globe. Leur croisement a produit les races mixtes secondaires. Les caractères physiologiques des races primitives sont l'indice évident qu'elles proviennent de types spéciaux. Les mêmes considérations existent donc pour l'homme comme pour les animaux, quant à la pluralité des souches. Entre parenthèses, voir chapitre 10, les numéros 2 et suivants. Fermez la parenthèse. Point 40. Adam et ses descendants sont représentés dans la Genèse comme des hommes essentiellement intelligents, puisque dès la seconde génération, ils bâtissent des villes, cultivent la terre, travaillent les métaux. Leur progrès dans les arts et les sciences sont rapides et constamment soutenus. On ne concevrait donc pas que cette souche ait eu pour rejeton des peuples nombreux si arriérés, d'une intelligence si rudimentaire, qu'ils côtoient au cours de nos jours l'animalité. Qui aurait perdu toute trace et jusqu'au moindre souvenir traditionnel de ce que faisait leur père? Une différence si radicale dans les aptitudes intellectuelles et dans le développement moral atteste, avec non moins d'évidence, une différence d'origine. Point 41. Indépendamment des faits géologiques, la preuve de l'existence de l'homme sur la Terre avant l'époque fixée par la Genèse est tirée de la population du globe. Sans parler de la chronologie chinoise qui remonte, dit-on, à 30 000 ans, des documents plus authentiques attestent que l'Égypte, l'Inde et d'autres contrées étaient peuplées et florissantes au moins 3 000 ans avant l'ère chrétienne. 1 000 ans, par conséquent, après la création du premier homme, selon la chronologie biblique. des documents et des observations récentes ne laissent aucun doute aujourd'hui sur les rapports qui ont existé entre l'Amérique et les anciens Égyptiens. D'où il faut conclure que cette contrée était déjà peuplée à cette époque. Il faudrait donc admettre qu'en 1000 ans, la postérité d'un seul homme a pu couvrir la plus grande partie de la terre. Or, une telle fécondité serait contraire à toutes les lois anthropologiques. Remarque. L'exposition universelle de 1867 a présenté des antiquités du Mexique qui ne laissent aucun doute sur les rapports que les peuples de cette contrée ont eus avec les anciens Égyptiens. M. Léon Méchedin, dans une note affichée dans le temple mexicain de l'exposition, s'exprimait ainsi. Il est convenable de ne point publier avant le temps les découvertes faites au point de vue de l'histoire de l'homme par la récente expédition scientifique du Mexique. Cependant, rien ne s'oppose à ce que le public sache, dès aujourd'hui, que l'exploration a signalé l'existence d'un grand nombre de villes effacées par le temps, mais que la pioche et l'incendie peuvent tirer de leur linceul. Les fouilles ont partout mis à découvert trois couches de civilisation qui semblent donner au monde américain une antiquité fabuleuse. C'est ainsi que chaque jour la science vient donner le démenti des faits à la doctrine qui limite à 6000 ans l'apparition de l'homme sur la terre et prétend le faire sortir d'une souche unique. Fin de la remarque. Point 42. L'impossibilité devient encore plus évidente si l'on admet avec la Genèse que le déluge a détruit tout le genre humain, à l'exception de Noé et de sa famille, qui n'étaient pas nombreuses, l'an du monde 1656, soit 2348 ans avant l'ère chrétienne. Ce ne serait donc en réalité que de Noé que daterait le peuplement du globe. Or, lorsque les Hébreux s'établirent en Égypte, 612 ans après le déluge, c'était déjà un puissant empire qui aurait été peuplé, sans parler des autres contrées, en moins de 6 siècles par les seuls descendants de Noé, ce qui n'est pas admissible. Remarquons en passant que les Égyptiens accueillirent les Hébreux comme des étrangers. Il serait étonnant qu'ils eussent perdu le souvenir d'une communauté d'origine aussi rapprochée alors qu'ils conservaient religieusement les monuments de leur histoire. Une rigoureuse logique, corroborée par les faits, démontre donc de la manière la plus péremptoire que l'homme est sur la terre depuis un temps indéterminé, bien antérieur à l'époque assignée par la Genèse. Il en est de même de la diversité des souches primitives. Car démontrer l'impossibilité d'une proposition, c'est démontrer la proposition contraire. Si la géologie découvre des traces authentiques de la présence de l'homme avant la grande période diluvienne, la démonstration sera encore plus absolue. Doctrine des anges déchus et du paradis perdu. Remarque. Lorsque, dans la revue de janvier 1862, nous avons publié un article sur l'interprétation de la doctrine des anges déchus, nous n'avons présenté cette théorie que comme une hypothèse, n'ayant que l'autorité d'une opinion personnelle controversable, parce qu'alors nous manquions d'éléments assez complets pour une affirmation absolue. Nous l'avons donné à titre d'essai, en vue d'en provoquer l'examen, bien déterminé à l'abandonner ou à la modifier s'il y avait lieu. Aujourd'hui, cette théorie a subi l'épreuve du contrôle universel. Non seulement elle a été accueillie par la grande majorité des spirites comme la plus rationnelle et la plus conforme à la souveraine justice de Dieu, mais elle a été confirmée par la généralité des instructions données par les esprits sur ce sujet. Il en est de même de celle qui concerne l'origine de la race adamique. Fait de la remarque. Point 43. Les mondes progressent physiquement par l'élaboration de la matière et moralement par l'épuration des esprits qui les habitent. Le bonheur y est en raison de la prédominance du bien sur le mal, et la prédominance du bien est le résultat de l'avancement moral des esprits. Le progrès intellectuel ne suffit pas, puisque, avec l'intelligence, il peut faire le mal. Lors donc qu'un monde est arrivé à l'une de ces périodes de transformation qui doit le faire monter dans la hiérarchie, des mutations s'opèrent dans sa population incarnée et désincarnée. C'est alors qu'ont lieu les grandes émigrations et immigrations. Entre parenthèses, voir numéro 34 et 35. Fermez la parenthèse. Ceux qui, malgré leur intelligence et leur savoir, ont persévéré dans le mal, dans leur révolte contre Dieu et ses lois, seraient désormais une entrave pour le progrès moral ultérieur, une cause permanente de troubles pour le repos et le bonheur des bons. C'est pourquoi ils en sont exclus et envoyés dans des mondes moins avancés. Là, ils appliqueront leur intelligence et l'intuition de leurs connaissances acquises au progrès de ceux parmi lesquels ils sont appelés à vivre, en même temps qu'ils expieront, dans une série d'existences pénibles et par un dur travail, leurs fautes passées et leur endurcissement volontaire. Que seront-ils parmi ces peuplades nouvelles pour eux, encore dans l'enfance de la barbarie, sinon des anges ou esprits déchus envoyés en expiation? La terre dont ils sont expulsés n'est-elle pas pour eux un paradis perdu? N'était-elle pas pour eux un lieu de délices en comparaison du milieu ingrat où ils vont se trouver relégués pendant des milliers de siècles, jusqu'au jour où ils auront mérité leur délivrance? Le vague souvenir intuitif qu'ils ont conservé pour eux comme un mirage lointain, qui leur rappelle ce qu'ils ont perdu par leur faute. Point 44. Mais en même temps que les mauvais sont partis du monde qu'ils habitaient, ils sont remplacés par des esprits meilleurs, venus soit d'un monde moins avancé qu'ils ont mérité de quitter, et pour lesquels leur nouveau séjour est une récompense. La population spirituelle étant ainsi renouvelée et purgée de ses plus mauvais éléments. Au bout de quelque temps, l'état moral du monde se trouve amélioré. Ces mutations sont quelquefois partielles, c'est-à-dire limitées à un peuple, à une race. D'autres fois, elles sont générales, quand la période de rénovation est arrivée pour le globe.
Pour terminer sa lecture du jour, notre sœur Gisèle vous invite à suivre la suite du chapitre 11, Genèse spirituelle, et plus particulièrement de la doctrine des anges déchus et du paradis perdu, du point 45 à 49.
La Genèse selon le spiritisme, suite du chapitre 11, Genèse spirituelle. Doctrine des anges déchus et du paradis perdu. Suite. Point 45. La race adamique a tous les caractères d'une race proscrite. Les esprits qui en font partie ont été exilés sur la terre, déjà peuplée, mais d'hommes primitifs, plongés dans l'ignorance, et qu'ils ont eu pour mission de faire progresser en apportant parmi eux les lumières d'une intelligence développée. N'est-ce pas, en effet, le rôle que cette race a rempli jusqu'à ce jour? Leur supériorité intellectuelle prouve que le monde d'où ils sont sortis était plus avancé que la Terre. Mais ce monde devant entrer dans une nouvelle phase de progrès, et ces esprits, vu leur obstination, n'ayant pas su se mettre à cette hauteur, y auraient été déplacés et auraient été une entrave à la marche providentielle des choses. C'est pourquoi ils en ont été exclus, tandis que d'autres ont mérité de les remplacer. En reléguant cette race sur cette terre de labour et de souffrance, Dieu a eu raison de lui dire « Tu en tireras ta nourriture à la sueur de ton front. » Dans sa mansuétude, il lui a promis qu'il lui enverrait un sauveur, c'est-à-dire celui qui devait l'éclairer sur la route à suivre pour sortir de ce lieu de misère, de cet enfer, et arriver à la félicité des élus. Ce sauveur, il le lui a envoyé dans la personne du Christ, qui a enseigné la loi d'amour et de charité, méconnue par eux, et qui devait être la véritable ancre de salut. C'est également en vue de faire avancer l'humanité dans un sens déterminé que des esprits supérieurs, sans avoir les qualités du Christ, s'incarnent de temps à autre sur la terre pour y accomplir des missions spéciales qui profitent en même temps à leur avancement personnel s'ils les remplissent selon les vues du Créateur. Point 46. Sans la réincarnation, la mission du Christ serait un non-sens, ainsi que la promesse faite par Dieu. Supposons en effet que l'âme de chaque homme soit créée à la naissance de son corps, et qu'elle ne fasse que paraître et disparaître sur la terre. Il n'y a aucune relation entre celles qui sont venues depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, ni entre celles qui sont venues depuis. Elles sont toutes étrangères les unes aux autres. La promesse d'un sauveur faite par Dieu ne pouvait s'appliquer aux descendants d'Adam si leur âme n'était pas encore créée. Pour que la mission du Christ pût se rattacher aux paroles de Dieu, il fallait qu'elle pût s'appliquer aux mêmes âmes. Si ces âmes sont nouvelles, elles ne peuvent être entachées de la faute du premier Père, qui n'est que le Père charnel et non le Père spirituel. Autrement, Dieu aurait créé des âmes entachées d'une faute qui ne pouvait déteindre sur elles puisqu'elles n'existaient pas. La doctrine vulgaire du péché originel implique donc la nécessité d'un rapport entre les âmes du temps du Christ et celles du temps d'Adam, et par conséquent la réincarnation. Dites que toutes ces âmes faisaient partie de la colonie d'esprits exilés sur la terre au temps d'Adam, et qu'elles étaient entachées des vices qui les avaient faites exclure d'un monde meilleur, et vous aurez la seule interprétation rationnelle du péché originel. Péché propre à chaque individu, et non le résultat de la responsabilité de la faute d'un autre qu'il n'a jamais connu. Dites que ces âmes ou esprits renaissent à diverses reprises sur la terre à la vie corporelle pour progresser et s'épurer, que le Christ est venu éclairer ces mêmes âmes, non seulement pour leur vie passée, mais pour leur vie ultérieure, et seulement alors vous donner à sa mission un but réel et sérieux, acceptable par la raison. Point 47. Un exemple familier, frappant par son analogie, fera mieux comprendre encore les principes qui viennent d'être exposés. Le 24 mai 1861, la frégate Iphigénie amena à la Nouvelle-Calédonie une compagnie disciplinaire composée de 291 hommes. Le commandant de la colonie leur adressa, à leur arrivée, un ordre du jour ainsi conçu. « En mettant le pied sur cette terre lointaine, vous avez déjà compris le rôle qui vous est réservé. À l'exemple de nos braves soldats de la marine servant sous vos yeux, vous nous aiderez à porter avec éclat, au milieu des tribus sauvages de la Nouvelle-Calédonie, le flambeau de la civilisation. » N'est-ce pas là une belle et noble mission? Je vous le demande. Vous la remplirez dignement. Écoutez la voix et les conseils de vos chefs. Je suis à leur tête. Que mes paroles soient bien entendues. Le choix de votre commandant, de vos officiers, de vos sous-officiers et caporaux est un sûr garant de tous les efforts qui seront tentés pour faire de vous d'excellents soldats. Je dis plus, pour vous élever à la hauteur de bons citoyens et vous transformer en colons honorables, si vous le désirez. Votre discipline est sévère, elle doit l'être. Placée en nos mains, elle sera ferme et inflexible, sachez-le bien. Comme aussi, juste et paternelle, elle saura distinguer l'erreur du vice et de la dégradation. Voilà donc des hommes expulsés pour leur mauvaise conduite d'un pays civilisé et envoyé par punition chez un peuple barbare. Que leur dit le chef? Vous avez enfreint les lois de votre pays. Vous y avez été une cause de troubles et de scandales. Et l'on vous en a chassé. On vous envoie ici. Mais vous pouvez y racheter votre passé. Vous pouvez, par le travail, vous y créer une position honorable et devenir d'honnêtes citoyens. Vous y avez une belle mission à remplir, celle de porter la civilisation parmi ces tribus sauvages. La discipline sera sévère, mais juste, et nous saurons distinguer ceux qui se conduiront bien. Votre sort est entre vos mains. Vous pouvez l'améliorer si vous le désirez, parce que vous avez votre libre arbitre. Pour ces hommes relégués au sein de la sauvagerie, la mère patrie n'est-elle pas un paradis perdu par leur faute et par leur rébellion à la loi? Sur cette terre lointaine, ne sont-ils pas des anges déchus? Le langage du chef n'est-il pas celui que Dieu fit entendre aux esprits exilés sur la terre? Vous avez désobéi à mes lois, et c'est pour cela que je vous ai chassé du monde où vous pouviez vivre heureux et en paix. Ici, vous serez condamnés au travail, mais vous pourrez, par votre bonne conduite, mériter votre pardon et reconquérir la patrie que vous avez perdue par votre faute, c'est-à-dire le ciel. Point 48. Au premier abord, l'idée de déchéance paraît en contradiction avec le principe que les esprits ne peuvent rétrograder. Mais il faut considérer qu'il ne s'agit point de retour vers l'état primitif. L'esprit, quoique dans une position inférieure, ne perd rien de ce qu'il a acquis. Son développement moral et intellectuel est le même, quel que soit le milieu où il se trouve placé. Il est dans la position de l'homme du monde, condamné au bagne pour ses méfaits. Certes, il est dégradé, déchu au point de vue social, mais il ne devient ni plus stupide, ni plus ignorant. Point 49. Croit-on maintenant que ces hommes envoyés dans la Nouvelle-Calédonie vont se transformer subitement en modèles de vertu? Qu'ils vont abjurer tout à coup leurs erreurs passées? Il ne faudrait pas connaître l'humanité pour le supposer. Par la même raison, les esprits de la race adamique, une fois transplantés sur la terre d'exil, n'ont pas dépouillé instantanément leur orgueil et leurs mauvais instincts. Longtemps encore, ils ont conservé les tendances de leur origine, un reste du vieux levain. Or, n'est-ce pas là le péché originel?
Nous voici arrivés à la séquence réservée aux activités au Grand-Duché de Luxembourg, en France et en Belgique. Tout d'abord au Grand-Duché de Luxembourg. Nos amis du groupe Spirit Alain Kardec de Luxembourg, le GESAC, organisent une conférence sur le thème central « Le pardon, chemin pour la santé intégrale ». Le conférencier sera le docteur André Morera. Celle-ci aura lieu le lundi 26 avril 2010 à 19h30 au siège social du GESAC, 40 rue des États-Unis à 1477 Luxembourg-Ville. Au Grand-Duché de Luxembourg toujours, le lundi 7 juin 2010 à 19h30, le GESAC organise une conférence sur le thème « La joie de vivre ». Le conférencier sera Divaldo Pereira Franco. Celle-ci aura lieu au Centre culturel de Limpertbeek, 49 rue Ermesinde à 1469 Luxembourg. Pour renseignements et inscriptions, via courriel Alain Kardel Lux en un mot @yahoo.fr. En Belgique, province du Luxembourg, le Centre philosophique Spirit Nos Solars vous invite à sa conférence sur le thème Père Esprit et Santé. Celle-ci aura lieu au siège social du Centre, rue des Hautes-Voies, numéro 21 à 6880, Aubis-sur-Semois, Bertry. Et ceci le mardi 27 avril 2010 à 19h. Les réservations sont souhaitées via courriel à l'adresse suivante marciario6 en un mot @yahoo.fr ou par téléphone en formant le 032 61 503 726 ou le 032 476 913 966. En Belgique, mais cette fois en province de Liège, troisième congrès de médecine et de spiritualité. En 2008, nous avons réalisé le premier congrès de médecine et spiritualité à Liège. En 2009, nous étions à Toulouse, en France, où depuis celui-ci, la création d'une association médico-spirit francophone est en préparation. Cette année, nous voici à nouveau dans l'accueillante ville de Liège. Nous avons dès lors le plaisir de vous inviter à ce troisième congrès qui aura lieu au Palais des Congrès de Liège les 5 et 6 juin 2010. Vous trouverez tous les renseignements sur notre site ainsi que les formulaires d'inscription. L'adresse de notre site www.lmsf.org. En France, dans le nord de la France, séminaire sur l'obsession à Douai. Ce séminaire se déroulera le samedi 27 mars 2010 à Douai. et ceci dans une salle de l'hôtel Ibis, le Romagnan, 4 rue de la Fonderie à Douai. Téléphone 03 27 87 27 27, de 9h à 12h et de 14h à 17h. Ce séminaire s'adresse au centre de la région Nord et sera animé par des intervenants du Conseil Spirit français. Les inscriptions peuvent se faire au 03 27 87 23 08 ou le soir au 03 27 88 51 60 ou par email chez nonspirit en un mot at 9.fr. En France, dans la ville de Tours, en Indre-et-Loire, notre correspondant Jean-Marie Lurquin nous signale une conférence Karine après la vie, témoignages et ateliers de formation et pratique TCI par ordinateur à l'hôtel Kirad de Saint-Pierre-de-Corps, parvis de la gare TGV, et ceci le samedi 10 avril 2010. Participation aux frais, 40 euros par personne. Atelier de formation et pratique donc. Le dimanche 11 avril 2010, de 9h30 à 18h30, avec une pause repas de 13h à 14h15, participation aux frais, 25 euros par personne. Inscription place limitée, envoyez un chèque au nom de Karine après la vie à l'adresse suivante, 8 La Bruyère, 37310, Reignac-sur-Indre. Pour renseignements complémentaires, merci de bien vouloir vous informer via le site www.karine-tci.com. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante, Union Spirit Belge, 43 rue Maguin, à 4000 Liège, ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.